Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Jean-Marc Ferry. Vous êtes philosophe titulaire de la chaire de philosophie de l'Europe à l'Université de Nantes, Maison des sciences de l'homme. J'ai envie de vous poser comme première question, comment en est-on arrivé là? Comment l'Europe, qui était jadis une utopie, qui était jadis une belle idée, est devenue quasiment une forme de repoussoir pour les peuples?
Bonjour, oui, c'est la question fondamentale à mon avis, parce que elle touche à un aspect de la crise qui est le plus profond, le plus problématique, c'est la crise de légitimité du projet européen lui-même. Alors que s'est-il passé? Il est temps quand même d'y réfléchir. Vous avez bien raison de dire que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la légitimation était très forte, le projet européen était très vivant, très intense. Plus de guerre civile européenne, disait-on, du côté européen. Du côté américain, on voulait à tout prix barrer l'expansion soviétique par une Europe libre et prospère. Il était clair que le défi suffisait à légitimer l'engagement de tous pour l'Europe. C'était le défi de la paix et de la guerre. Alors, que s'est-il passé, autant que je puisse voir? Le tournant se situe vers les années 90. Pourquoi? Parce que c'est l'écroulement du mur de Berlin et du bloc soviétique. À tort ou à raison, sans doute a-t-on pensé, et d'ailleurs ça s'est vu dans la littérature au sens large du mot, a-t-on pensé que le danger de guerre totale, pantoclastique, comme on dit, de destruction totale, la guerre nucléaire, la conflagration nucléaire, était écartée? À tort ou à raison, parce que peut-être la situation n'a-t-elle jamais été aussi dangereuse qu'à cette époque, mais enfin bon. Et vous avez eu à cette époque les thèmes de la fin de l'histoire, du triomphe définitif des institutions libérales, etc. On a rêvé un moment, et en même temps, ce que je peux dire, c'est un raccourci, excusez-moi, c'est un peu rapide, que cette légitimation première, la paix de l'Union européenne, s'est écroulée avec le mur de Berlin. Bon, j'exagère un peu, elle s'est érodée plutôt qu'écroulée, cette légitimation, mais elle est passée à l'arrière-plan, et la faute, à mon avis, des politiques a été de ne pas donner de légitimation de relève. On ne savait plus où on allait, ni pourquoi, ni quel était le sens de ce projet européen. On n'a pas vu que le nouveau défi, en tout cas on l'a mal dit, que le nouveau défi, où on l'a dit dans des termes qui ne sont pas acceptable pour les peuples, à mon avis. Le nouveau défi, après celui de la paix et de la guerre, même s'il est toujours présent, bien entendu, on s'en aperçoit aujourd'hui, c'est la mondialisation. Et la question se pose sous forme d'une alternative à deux termes, c'est-à-dire adaptation économique pure et simple ou reconquête, rattrapage politique de l'économie mondialisée avec ce risque de subversion des États par les marchés, du politique par l'économique. Et là, on n'a pas donné la réponse pour l'Europe face à la mondialisation. Que doit-elle faire? Et les positions se sont dessinées de façon catastrophique, dirais-je, parce que les uns étaient contre la mondialisation, c'est une mauvaise chose, donc repli sur le national, les souverainistes. Les autres, on est pour, néolibéralisme, et alors on s'ouvre tous azimuts. Les deux sont des mauvaises réponses et malheureusement, en devanture, le débat c'était êtes-vous pour ou contre l'Europe, alors qu'évidemment il faut savoir quelle Europe on veut.
Ça veut dire que la paix européenne n'est plus une condition suffisante pour que les peuples aiment l'Europe, Jean-Marc Ferry?
Eh bien, hélas, oui, maintenant, je dis hélas, mais après tout, peut-être heureusement, parce que il est possible que revienne à l'avant-scène le problème de la paix et de la guerre. Et nous sentons des secousses aujourd'hui. Par conséquent, je ne souhaite pas, à vrai dire, c'est ambivalent ma position, je ne souhaite pas que cette légitimation revienne au premier plan. Je pense que, évidemment, une voie plus raisonnable, ce serait d'approfondir le projet européen par rapport à ce défi nouveau qu'est la mondialisation.
Et toute cette matinée exceptionnelle sur France Culture, nous serons en ligne avec des créateurs. Nous sommes en ligne actuellement avec Stéphane Braunschweig. Bonjour, vous êtes metteur en scène et directeur de l'Odéon. Le théâtre de l'Odéon. Et vous vouliez réagir à ce résultat. Donc Stéphane Braunschweig qui donne une sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Pour vous, metteur en scène, qu'est-ce que cela vous inspire?
Bonjour, évidemment on se réveille un petit peu avec un coup sur la tête parce que pour nous les artistes, les gens de culture, l'idée d'une Europe ouverte, qui n'est donc pas une Europe qui se replie sur elle-même, est une idée fondamentale. Et d'ailleurs ça peut nous faire aussi réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour améliorer cette image de l'Europe qui aujourd'hui on a comme je disais un gros coup sur la tête. Je crois d'ailleurs, enfin j'ai entendu ce que disait Monsieur Ferry, il y a ces idéaux peut-être de la première histoire de l'Europe qui ont disparu et aujourd'hui j'ai aussi l'impression que l'Europe ça n'est que de l'économie et je crois que pour beaucoup c'est que de l'économie qu'il n'y a pas vraiment la défense de ce que pourrait être une Europe culturelle, ouais. Une Europe des artistes d'ailleurs, parce que vous savez, culture et art, c'est pas toujours exactement la même chose, mais en tout cas une Europe qui donne aussi qui tire aussi sa légitimité, son existence d'un projet culturel, c'est-à-dire d'un projet d'ouverture, d'attention aux cultures des autres, et qui même peut valoriser, je dirais, l'idée même du métissage, l'idée qu'on peut s'enrichir par les autres, alors que ce qui pointe aujourd'hui, bah, évidemment, une idée qui est largement entretenue par les eurosceptiques, les anti-européens, l'idée que tout ce qui touche à notre identité est menacé par une construction plus large.
Jean-Marc Ferry, qu'est-ce que vous en pensez, l'idée que l'Europe n'a pas été à même de développer un projet culturel spécifique? Ce qui est paradoxal au vu de l'histoire, évidemment, européenne.
Oui, l'Europe n'avait pas au départ la vocation de créer un grand espace d'échange culturel. C'est relativement récent, cette activation qui commence déjà, de dialogues culturels et artistiques. Donc dans le cadre des dialogues européens, il y a aussi beaucoup d'échanges. Mais je voudrais dire... Il y a un risque, n'est-ce pas? Il faut bien regarder la réalité en face. L'Europe, le projet européen, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose de froid. Vouloir faire aimer l'Europe, les appels du genre désir d'Europe, aimer l'Europe, etc., des appels à l'émotion, des appels à l'affectif, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, de ce que dit Stéphane Bonschweig, c'est différent. Mais c'est une chanson d'Europe qui rend un son de plus en plus cru. Il faut bien voir, encore une fois, j'insiste sur ce fait, c'est que le projet politique européen, il est complexe. Il doit être mené à terme. C'est des questions d'institutions, des questions d'économie. Évidemment, il faut aussi une société civile, il faut aussi des dialogues européens qui touchent à la culture. Mais tant qu'on n'aura pas fait une Europe sociale, tant qu'on n'aura pas fait une Europe économique, tant qu'on n'aura pas fait l'harmonisation fiscale, tant qu'il n'y aura pas des minima sociaux et environnementaux, européens transversaux, ça ira mal.
Stéphane Bonschweig, le théâtre de l'Odéon que vous dirigez s'appelle aussi Théâtre de l'Europe. Vous allez changer votre programmation. Il va y avoir des conséquences au sujet donc de ce Brexit dans votre théâtre.
Non, il n'y a pas de conséquences immédiates sur la programmation. D'ailleurs, nous avons une grande metteuse en scène anglaise qui s'appelle Deborah Warner, qui sera dans notre saison prochaine, au même titre que sept autres spectacles en langue étrangère. Donc le théâtre de l'Odéon continue à faire son travail. Bien sûr, on peut se poser des questions sur comment aussi on peut organiser à l'Odéon peut-être des débats, des rencontres autour de ces questions de cohérence, de composition européenne qui semblent aujourd'hui menacées. Bien sûr, j'entendais Hubert Védrine tout à l'heure dire que ça pouvait créer un effet domino. C'est évidemment ce qu'on peut craindre.
Ce que tout le monde redoute, effectivement. Aujourd'hui, merci beaucoup Stéphane Bonschweig d'avoir été en notre compagnie. Nous sommes en ligne avec Quentin Dickinson. Bonjour Quentin, vous êtes le correspondant de Radio France à Bruxelles. Quelle réaction à 7h51 ?
Eh bien, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Eh bien, les réactions pour l'instant ne sont pas extrêmement nombreuses. On sait ce qui va se passer. La procédure est conforme à l'article 50 du traité de Lisbonne. On sait ce qui va se passer, c'est-à-dire que on attend la notification du gouvernement britannique, de M. Cameron ou de son successeur, qui sait, dans les heures qui viennent, qui déclenchera effectivement une négociation, laquelle est prévue pour durer au minimum 2 ans et probablement plus longtemps que cela. Au cours de cette période, évidemment, le Royaume-Uni continue à être membre de l'Union européenne et toutes les règles, tous les règlements, directives de l'Union européenne continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. Donc il n'y a pas une césure, un divorce brutal entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et puis à la fin de tout cela, eh bien, c'est un saut dans l'inconnu dont on ne peut dire qu'une seule chose, c'est que les incertitudes sont constantes, importantes et extrêmement dommageables pour l'économie de l'ensemble des pays du Royaume-Uni comme de ses anciens partenaires et pour le poids, la voix, le message de l'Union européenne et de l'Europe en général dans le monde, avec un risque réel à la clé de marginalisation.
Un résultat inattendu, soyez honnête Quentin, est-ce que dans les couloirs du Parlement européen on en parlait? Est-ce que selon vous c'était quelque chose de considéré comme probable, ce livre, cette décision donc de la Grande-Bretagne de quitter l'Europe ?
Une approche intellectuelle honnête, scientifique d'ailleurs honnête aussi, conduit à dire que personne ne pouvait savoir quelle serait l'issue de ce référendum. D'abord parce que les sondages étaient très largement depuis 6 mois à l'intérieur de la marge d'erreur, que d'autre part les instituts de sondage se sont montrés au Royaume-Uni encore moins fiables dans leurs prévisions politiques qu'en France, et c'est tout dire. Et d'autre part parce que, effectivement, nous pensions que c'était une éventualité, évidemment, mais qui risquait ici, disait-on, de voir les Britanniques appliquer une espèce de principe de réalisme, que les Britanniques, cette nation de boutiquiers, n'iraient pas jusqu'à
voter
contre ses propres intérêts. Voilà, des gens pragmatiques. Eh bien, ils viennent de faire de la démonstration qu'ils sont tout sauf pragmatiques et que les inquiétudes ici sont réelles, parce qu'on sait que nous aurons, conformément au traité, des négociations avec Londres sur le retrait, sur le désengagement du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais nous nous attendons aussi, compte tenu du résultat régionalisé de ce référendum, à devoir négocier tôt ou tard avec les Écossais d'une Écosse redevenue indépendante depuis 1707. Nous attendons à devoir négocier l'adhésion d'une Écosse indépendante.
Il y aura effectivement des conséquences pour la nation écossaise si celle-ci donc devient indépendante de l'Europe, ou plutôt indépendante du Royaume-Uni. Merci beaucoup, Quentin Dickinson. Votre réaction, Jean-Marc Ferry, lorsque l'on dit que les Britanniques n'ont pas fait preuve de pragmatisme, qu'est-ce que ça suscite en vous? Parce que lorsqu'on explique notamment que l'Europe n'a pas apporté suffisamment de choses sur le plan social, lorsqu'on explique que cette Europe n'a pas été l'Europe des peuples, cela donne des arguments qui peuvent être considérés comme pragmatiques contre l'idée européenne.
Cette remarque de Quentin Dickinson est tout à fait intéressante et juste. Les Anglais se sont montrés tout sauf pragmatiques. C'est très amusant d'ailleurs, si la situation n'était pas si dramatique. Et parce qu'il y a un vrai paradoxe. Et un vrai paradoxe dans cette affaire, dans le Brexit, c'est que le Royaume-Uni a beaucoup moins de raisons que d'autres, comme par exemple l'Italie ou d'autres membres de la zone euro et de l'espace Schengen, d'imputer en quelque sorte son euroscepticisme à l'Union européenne elle-même et à sa gouvernance, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est intéressant. Elle a beaucoup plus de latitude politique que les membres de la zone euro. Elle a une souveraineté budgétaire, elle a une souveraineté monétaire, elle n'est pas dans l'espace Schengen. Elle peut se permettre des déficits extérieurs fantastiques, 7% en 2015, voyez-vous.
Et cependant, ils ont voté non.
Oui, et a moins de raisons de s'estimer victime de ce que pudiquement on pourrait appeler une gouvernance post-démocratique, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que justement, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Quentin Dickinson, c'est que la réclamation de fond, celle que l'on a tort de stigmatiser sous le mot euroscepticisme, europhobie, etc., c'est une réclamation d'autonomie civique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autonomie civique? Ça veut dire que les citoyens veulent, de près ou de loin, plutôt de près que de loin, se sentir les auteurs des normes dont ils sont les destinataires. Et c'est là le cœur du problème. Voyez-vous, il y a une vraie homologie entre le Royaume-Uni et la France de ce point de vue-là. Il y a ce qu'on appelle au Royaume-Uni les civiques nationalistes, et en France, les nationaux républicains. Et on les stigmatiser comme populistes souverainistes, c'est une vraie erreur de la part de la communication politique plus ou moins propagandiste en faveur de l'Europe. Il faut prendre au sérieux cette réclamation.
On vous retrouve à 8h15, Jean-Marc Ferry. Je rappelle que vous avez publié notamment la question de l'État européen, 7h56.